buenos días. Otra vez vamos a comenzar las jornadas de trabajo precisamente con una conferencia del profesor Mohamed Darkoun, que naturalmente no necesita presentación alguna. El profesor Darkoun, como ustedes saben, es catedrático de Historia del Pensamiento Islámico en la Universidad de la Sorbona de París 3, y a privarles más tiempo de la oportunidad de escuchar la conferencia del profesor Darkoun, y le cedo la palabra. Tras su conferencia tendrá lugar un pequeño debate, y esta tarde reanudaremos el debate con la primera mesa redonda. Muchas gracias.
Merci, cher ami, pour votre présentation toujours amicale, et merci de me donner l'occasion de découvrir ce beau palais où vous êtes installé. Et ce centre a pour moi une valeur symbolique, comme tout ce qui se passe à Grenade, j'allais dire, mais c'est la même chose. Tolède, Grenade sont des symboles pour nous qui essayons de franchir un nouveau pas dans l'histoire des cultures dans le monde méditerranéen. Parce que nous avons un passé à gérer, et à gérer d'une façon différente de celle que nous avons utilisée jusqu'à présent. C'est dans cet éclairage d'une reprise critique, intellectuelle, culturelle, des passés, des peuples qui vivent dans le pourtour de la Méditerranée, que je vais essayer de définir une réflexion au sujet des problèmes que pose l'immigration dans le pourtour de la Méditerranée. Donc ça n'est pas seulement l'immigration musulmane, mais l'immigration en général. Et je vais traiter l'immigration en tant que phénomène de civilisation, et non pas en tant que ensemble de problèmes politiques, de problèmes économiques, de problèmes sociaux, problèmes sur lesquels nous avons déjà une documentation relativement riche. Les sociologues, les politologues se sont beaucoup occupés de la question de l'immigration, et il faut justement savoir comment utiliser aujourd'hui cette documentation accumulée par les spécialistes en sciences sociales au sujet du phénomène de l'immigration pour aller plus loin dans l'analyse des enjeux de civilisation que pose aujourd'hui, principalement en Europe, la présence, pour la première fois dans l'histoire, d'un nombre significatif, socialement parlant, de musulmans dans tous les pays d'Europe aujourd'hui. C'est un phénomène nouveau. L'Europe, historiquement, a été prise en charge, si je puis dire, par le christianisme. Dans ses formes catholiques, protestantes, plus récemment, et il ne faut pas l'oublier, orthodoxes. Le christianisme orthodoxe existe et il est puissant, il est fort. On vient de le voir avec la crise yougoslave, si on peut appeler ça une crise. Et il y a donc cette force qui a alimenté, développé en Europe une civilisation en opposition à la fois sur le plan proprement religieux, théologique, que sur le plan politique, géostratégique. Depuis l'émergence de l'islam dans la Méditerranée, il y a eu opposition sur tous les plans entre la force politique, économique, culturelle, scientifique, intellectuelle qui est devenue l'islam d'expression arabe du 7e siècle jusqu'au 12e, 13e siècle, et jusqu'à la fin en particulier de l'islam ici en Andalousie, 1492, et malgré l'émergence de l'Empire ottoman à partir du 15e, 16e siècle, qui a essayé de reprendre une certaine présence de l'islam en Méditerranée, nous savons que la puissance ottomane a eu à affronter une Europe en pleine émergence, en plein développement, sur tous les plans. La modernité a commencé en Europe au XVIe siècle, et face à cette modernité, les forces militaires, politiques, économiques de l'Empire ottoman n'ont pas évidemment réussi à maintenir la présence, une présence significative de l'islam et de sa culture dans ce monde méditerranéen. Donc il faut avoir dans l'esprit ce long passé de conflit, ce long passé de contentieux, et d'un contentieux qui, je le répète, s'est traduit sur le plan militaire et sur le plan politique de façon visible, et a été plus ou moins enseigné dans nos livres d'histoire, aussi bien dans les livres d'histoire arabo-islamique que dans les livres d'histoire européens. On a retenu surtout les affrontements politiques et les affrontements militaires, mais on n'a pas beaucoup parlé des réalités culturelles et de l'histoire des cultures qui ont développé tout autour de la Méditerranée des échanges pacifiques pendant un certain temps. Mais ces échanges pacifiques ont été refoulés, oubliés, dans nos histoires, dans notre manière d'enseigner l'histoire de la pensée dans l'espace méditerranéen, par exemple. Je pense à l'enseignement de l'histoire de la philosophie telle qu'on le fait en Europe, la période islamo-arabe de la philosophie est très peu enseignée, et si elle l'est plus dans les départements d'arabe, dans les départements d'études orientales, là où il en existe, que dans les départements de philosophie, où tous les étudiants doivent entendre cette page d'histoire importante. Et jusqu'à présent, ils ne l'entendent pas encore. Vous voyez donc qu'il y a là toute une reprise de la façon dont nous approchons la question de l'immigration. Et pour cela, il faut sortir, et on n'est pas encore sorti, du discours de la victimisation. Ça, c'est très important. Je voudrais insister sur ce point dès le début. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la question de l'immigration en Europe, les immigrés sont présentés comme des victimes. Ce sont des victimes du système colonial. Le système colonial a entraîné pour les populations des ex-pays colonisés, en particulier du Maghreb, des conséquences sociales et politiques que nous connaissons maintenant, qui ont obligé les ex-colonisés à aller retrouver, en quelque sorte, les ex-colonisateurs pour leur demander du secours, pour leur demander un abri. Il y a des références constantes dans la dénonciation du racisme, par exemple, en Europe, vis-à-vis de l'immigration arabe et musulmane. Il y a une victimisation de l'islam qui se répand partout en disant que l'Occident perçoit l'islam de façon négative. Il confond la grande culture et la grande pensée islamique avec les affirmations fondamentalistes et intégristes de l'islam d'aujourd'hui. Il y a un imaginaire européen qui est construit par les médias et qui est un imaginaire hostile, un imaginaire négatif vis-à-vis d'islam, etc. Tout cet ensemble-là, je l'appelle discours de la victimisation. Nous sommes les victimes, ils sont les oppresseurs. Et ce discours, je n'aime pas, je ne l'ai jamais aimé, personnellement. Quand j'étais étudiant pendant la guerre d'Algérie, j'ai vécu ce discours de victimisation de manière intense. Le discours nationaliste de libération était aussi un discours de victimisation. L'Occident colonial a fait peser sa domination sur les pays colonisés, il a détruit les cultures locales et les cultures arabes et islamiques en particulier, et donc tout le côté de la victime, moralement parlant, a fonctionné comme discours de légitimation des luttes de libération. Et de l'autre côté, bien sûr, l'Europe avait aussi son discours face à ce discours de victimisation, qui était le discours de la civilisation. Nous venons vous apporter quelque chose que vous n'avez pas conquis historiquement. Vous ne savez pas ce que c'est que la modernité, vous n'avez pas participé à la modernité, nous l'avons fait depuis le XVIe siècle. Et plus encore depuis le XVIIIe siècle. Nous voulons vous apporter les lumières du XVIIIe siècle, que vous n'avez pas. Pendant la période coloniale, ce discours se tenait ouvertement, maintenant ça ne se tient plus. Mais dans la perception actuelle de l'islam en Europe, il y a toute la philosophie des Lumières. Il y a toute la perception négative du religieux qui vient de la philosophie des Lumières. Voltaire disait, par exemple, une de ses phrases significatives de cet état d'esprit et de la perception du religion en général et de l'islam en particulier, par la raison des Lumières. « Je vous délivre, disait Voltaire, d'une bête féroce, et vous me demandez par quoi je la remplace. » Je ne sais pas si vous comprenez qui est la bête féroce. La bête féroce, c'est la religion incarnée dans l'institution ecclésiastique, qui est une institution politique et pas seulement religieuse, à la manière dont nous voyons les choses aujourd'hui avec l'islam. Il appelait ça la bête féroce. Je vous délivre de cette bête féroce qui a régné sur nos sociétés en apportant des lumières au sujet de ce qu'est en fait la religion et de la place que doit occuper la religion, selon la raison des Lumières. Mais Voltaire ajoutait, et vous me demandez par quoi je vais la remplacer. C'est-à-dire, je ne vais pas vous proposer une autre bête féroce. Il faut que nous travaillions ensemble à construire les Lumières. Mais cette conception des Lumières, par les artisans philosophes des Lumières au XVIIIe siècle, est devenue la religion laïque de l'État laïque et des États-nations. Surtout vis-à-vis des autres cultures et vis-à-vis de la culture et de la religion toujours présente dans l'espace méditerranéen qui est inséparablement un espace européen et arabo-musulman. C'est la géopolitique, on n'y peut rien. Les musulmans sont toujours là, ils nous embêtent toujours. Et donc voilà, si vous voulez, les cadres de perception de part et d'autre qui font qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'immigration et des immigrés en Europe et des discours tenus par les immigrés en Europe lorsqu'ils réclament des droits dans les différents pays européens, il y a tout ce mélange de questions mal posées, de questions qui ne sont pas encore posées, vous allez voir lesquelles, de questions posées, mais très mal gérées, parce qu'elles sont posées sur des malentendus, au sujet, aussi bien au sujet, du fonctionnement en Europe aujourd'hui. De ce que j'appellerais grosso modo, parce que je n'ai pas le temps d'analyser, la raison des Lumières, la philosophie des Lumières, avec toute la philosophie politique des États-nations européens, qui est basée encore sur les postulats philosophiques de la raison des Lumières, alors qu'il faut en sortir pour des raisons, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler. Il y a donc tout ce travail de critique interne par les Européens de la philosophie politique à la théologie politique chrétienne qui a été la base d'une légitimation du pouvoir politique dans tous les pays d'Europe
jusqu'au XVIIIe siècle, exactement comme la théologie politique musulmane a été la base de légitimation du califat et dans une certaine mesure du sultanat ottoman jusqu'à son abolition, voir ce conflit historiquement. Ici, j'évoque beaucoup de choses historiques qui ne nous sont pas soumises.
En familière, même en Europe, a fortiori du côté musulman. La substitution de la théologie, de la philosophie politique des Lumières à la théologie politique, à laquelle on ne fait plus guère allusion dans l'enseignement de l'histoire de la philosophie politique. Parce que la théologie n'est plus guère enseignée. L'histoire de la pensée théologique n'est plus guère enseignée dans les universités européennes, puisque nous avons, comme vous le savez, une division entre les départements de philosophie qui fonctionnent de leur côté et les départements de théologie, là où il en existe. En France, il n'en existe pas. Je ne sais pas si vous en avez ici en Espagne. Mais là où il en existe, ils sont complètement séparés du département de philosophie jusqu'à nos jours. Imaginez. Et ça engendre un tas de problèmes qui ne sont pas résolus et qui ne sont pas mis en circulation pour justement apporter une plateforme culturelle et intellectuelle pour aborder cette prétention inouïe de l'islam actuel qui brandit devant le modèle occidental un modèle islamique sacré, car c'est au nom de ce modèle que l'islam politique se bat. Un modèle islamique qui est présenté comme supérieur au modèle occidental. Parce qu'il est encore perçu et vécu comme un modèle d'origine divine. C'est le modèle de la théologie politique islamique que l'islam, qu'on appelle fondamentaliste, veut restituer, veut restaurer, de la manière que vous savez. Et vous voyez que il y a certes un clash politique entre ces deux modèles. Mais le clash politique est soutenu derrière par des références, d'une part à la théologie politique, encore chez les musulmans aujourd'hui, et d'autre part à la philosophie politique issue des Lumières. Et vous voyez par conséquent que là, le débat ne peut pas démarrer. Le débat ne peut être que conflictuel, il ne peut donner lieu qu'au clash des civilisations, comme disent les politologues, et nous ne pouvons pas nous en sortir sans la violence politique. C'est ce qui se passe, c'est ce qui est en train de se passer. Et ça se passe ainsi d'autant plus que l'immigration dans tous les pays européens n'est pas l'immigration d'intellectuels. Au début, tout au moins, maintenant, elle commence à l'être. Ce n'est pas l'immigration de représentants d'une culture assumée de façon moderne et critique. Ce sont les Hausarbeiter, comme les appellent les Allemands. Ce sont les travailleurs nord-africains, comme les appellent les Français. C'est-à-dire une population d'ouvriers, une population de main-d'œuvre, qui n'est pas allée à l'université, qui n'est même pas allée au lycée ou souvent à l'école primaire. C'est cette population-là qui apporte une force de travail, qui est respectable en elle-même, qui est donnée à percevoir aux Européens ici. Et c'est à travers cette population-là qu'on va généraliser et dire voilà comment s'exprime l'islam. Et jusqu'à présent, malgré l'immigration récente, en particulier d'Algérie, pour les raisons que nous savons, d'un grand nombre d'intellectuels, ces intellectuels n'ont pas de voix en Europe. Ils ne parlent pas en Europe. Je peux vous dire personnellement, je vis en France depuis plus de 30 ans, j'occupe la place que vous savez en France. Jamais la télévision française ne s'est adressée à moi pour essayer de présenter, comme je le fais devant vous par exemple, les enjeux culturels et intellectuels des affrontements qui ont lieu dans la société française, presque quotidiennement. Et nous savons pourtant combien il est nécessaire d'éclairer ce débat stupide, fumeux, idéologique au possible, passionné au possible, du foulard islamique. La République laïciste militante, pas laïque, car je ne dénonce pas la laïcité. La laïcité est une conquête intellectuelle de la pensée humaine vis-à-vis du problème du sens. C'est cela la laïcité, ultimement. C'est la liberté de la raison de poser des problèmes indépendamment des contraintes institutionnelles dogmatiques ou des contraintes politiques aussi dogmatiques qui peuvent émerger même au sein d'États qui se disent républicains et laïques. C'est cela la laïcité. C'est une libération nécessaire, une autonomie nécessaire de la raison qui affronte le problème du sens dans les sociétés. Comprise ainsi, il y a place pour toutes les affirmations culturelles, il y a place pour les échanges culturels, il y a place pour les débats. Mais il n'y a aucune espèce de répression d'une affirmation qui est d'abord une affirmation culturelle avant d'être religieuse, à condition de savoir la gérer. Ceci pour vous dire que l'immigration, même la partie intellectuelle de l'immigration qui commence à devenir importante en Europe, elle a peu de présence encore, je peux en témoigner. Ce n'est pas seulement pour moi, mais je connais tous mes amis, tous mes collègues, nous en plaignons tous collectivement. Nous n'avons pas la présence qui correspondrait à l'importance de la population qui vit dans les pays européens désormais, qui sont des citoyens européens désormais, et qui ont des choses à dire au sein des sociétés européennes, et qui sont des choses positives et constructives, tournées vers l'avenir. Personnellement, au sujet de l'immigration, comme je vous l'ai dit au début, je suis absolument contre la théorie qui a fait le succès que vous savez dans le monde entier, du clash des civilisations. Cette théorie est fondée sur la violence politique. Comme la théorie de la religion vraie, Dinul Haq, soutenue par les théologies pendant des siècles, les théologies au pluriel, chrétiennes, sous leurs trois formes, islamiques, sous leurs deux formes historiques, chiites et sunnites, la notion de Dinul Haq, religion vraie, qui ne doit laisser aucune place à une autre affirmation de vérité, est au centre de la pensée théologique. Et nous le savons très bien dans ce pays. Et oui, il faut le rappeler. Eh bien, nous voyons aujourd'hui une pensée politologique, venant bien sûr d'un lieu politique où l'hégémonie politique est totale sur le monde, vous voyez à quoi je fais allusion, parce qu'on a tellement cité cet article et ce nom que je ne veux pas, moi, le citer une nouvelle fois, mais on est obligé d'y faire référence parce qu'il représente effectivement une force non seulement géopolitique dans le monde actuel, mais il représente une force de frappe académique, intellectuelle, qui ne trouve pas de répondant. Le répondant islamique est un répondant politique qui affirme une supériorité religieuse, comme je vous l'ai dit, mais je ne vous ai pas encore dit que le discours fondamentaliste islamique actuel n'a aucun fondement, dans ce qu'est la pensée philosophique et théologique en contexte islamique, dans ce qu'elle a été, parce que malheureusement, elle n'est plus précisément. Elle a disparu. L'islam politique n'a aucun point d'appui aujourd'hui. ni dans la philosophie politique qui a existé avec les philosophes arabes, de Farabi jusqu'à Averroès. Je ne veux pas dire que cette philosophie politique développée au Moyen-Âge pourrait être aujourd'hui l'instrument intellectuel à utiliser face à une philosophie politique qui est encore un être. Je viens de critiquer la philosophie politique des Lumières, ça n'est pas du tout pour lui opposer la philosophie politique d'expression arabe et islamique telle qu'elle elle s'est affirmée entre le 7e et le 12e siècle. Je suis historien. Et je sais que cette pensée existe, elle a son intérêt intellectuel, mais elle a surtout un intérêt historique. Beaucoup plus qu'un intérêt d'outil intellectuel à utiliser aujourd'hui pour affronter les problèmes de civilisation que pose cette immigration, ce déplacement de population auquel nous assistons aujourd'hui. Par conséquent, nous avons à reprendre absolument tout le discours actuel sur la philosophie politique, aussi bien du côté occidental que du côté arabo-islamique, pour essayer d'ouvrir un autre espace de réflexion qui serait tourné, encore une fois, non pas vers le clash des civilisations, mais vers ce que j'appellerais moi, en matière d'échange culturel, l'intercréativité. Et en matière de recherche d'un cadre nouveau de pensée et d'action politique, la recherche d'une anthropologie politique adaptée au pluralisme culturel, au pluralisme ethno-culturel, qui caractérise toutes nos sociétés, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier, puisque dans le monde entier, nous assistons à des immigrations de populations, à des échanges de populations qui posent les mêmes problèmes que ceux que nous rencontrons en Europe. Seulement, nous nous contentons de la question de l'espace méditerranéen, comme je l'ai dit, parce que si nous arrivons à progresser dans la recherche de solutions nouvelles à ces problèmes de civilisation posés dans la Méditerranée, il est possible que ces solutions fassent tache d'huile et puissent s'imposer ailleurs. Alors, un mot rapide sur ce que j'appelle l'intercréativité. J'oppose le concept d'intercréativité au concept d'intégration et d'assimilation qui ont toujours été utilisés, vous le savez, par la pensée politique européenne, en particulier vis-à-vis des pays ex-colonisés. Personnellement, je peux vous retracer l'histoire du concept d'intégration et d'assimilation utilisé par les Français, par la France, en Algérie, depuis les années 1930. Ce ne sont pas des concepts récents. Ils ont été expérimentés historiquement, il y a toute une histoire de la notion d'intégration, et le cas français est, je dirais, paradigmatique, de même que la notion de république laïque indivise qui a été développée en France depuis le 18e siècle a un caractère paradigmatique politiquement parlant, parce que le cas français est différent du cas allemand où nous avons une pensée fédérale par exemple et non pas la pensée républicaine centralisatrice indivise etc. donc qui intègre tout ce qui vient de l'extérieur, les Espagnols, les Portugais, les Italiens, ils sont intégrés bien qu'ils soient des Européens et des chrétiens. Il faut tout intégrer, c'est-à-dire il faut que tout soit fondu dans la culture républicaine telle qu'elle est définie par l'État républicain. Il y a là donc un cas tout à fait intéressant, parce que ça a duré, ça dure encore. Il y a un haut conseil de l'émigration qui a été nommé depuis Michel Rocard, je crois, ce même Michel Rocard qui disait, vous le savez, la France ne peut pas prendre en charge toute la misère du monde. Je retiens cette phrase, non pas pour critiquer Michel Rocard, mais pour attirer votre attention sur le fait justement que une des pièces maîtresses de la philosophie politique à naître que nous devons construire, c'est précisément d'intégrer politiquement, économiquement, monétairement, culturellement, la misère du monde dans une stratégie politique orientée vers une histoire solidaire des peuples. Voilà un vocabulaire que je n'entends pas, qui n'existe pas. Les voix qui prononcent ces mots, opposer la solidarité des peuples, les problèmes des peuples, au club des États, j'appelle club des États, les Mobutu et pareil, qui ont émergé dans les années 50 et 60, et qui ont traité en tête à tête avec les États correspondants en Europe, indépendamment et au mépris des problèmes posés au peuple par ces soi-disant États et ces soi-disant leaders. Ça, c'est une critique radicale de la philosophie politique sous-jacente aux conceptions des rapports étatiques entre les États ex-colonisateurs avec les États nouveaux des pays ex-colonisés. Et ça n'est pas terminé, ce type de relation. Et vous voyez pourquoi j'appelle de toutes mes forces l'émergence d'une nouvelle philosophie politique. Nous avons un besoin urgent à la définition d'un nouveau droit international. Vous vous souvenez comme moi qu'aussi bien le président Bush et le président Mitterrand ont clamé aux Nations Unies la nécessité de définir un nouveau droit international pendant la guerre du Golfe, à l'occasion de la guerre du Golfe. Vous vous en souvenez. En tout cas, c'est là, c'est écrit dans les journaux, nous le savons. Il y a là quelque chose de tout à fait urgent. Mais ce droit international nouveau ne peut pas advenir si nous continuons à fonctionner à l'intérieur de la philosophie politique héritée du XIXe siècle, qui est fondée sur des rapports de force, sur des stratégies de rapports de force, sur des stratégies de contrôle géopolitique des régions névralgiques, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons stratégiques. Et cette stratégie n'a rien à voir avec une stratégie qui intégrerait la misère culturelle du monde, car il y a une misère culturelle du monde. Et quelles sont les réponses des démocraties européennes à la misère culturelle des immigrés en Europe? Une histoire personnelle, si vous permettez. Pendant l'affaire Rushdie, je me suis exprimé publiquement en France. Et une de mes revendications, voyant ce débat misérable, et c'est un grand débat, s'il était mené au niveau de l'intercréativité des cultures et des pensées qui sont à notre disposition, et c'est ce que je réclamais. Et je disais, vous pouvez le lire dans Le Monde, au lieu de nous abaisser à ces débats misérables, d'une religion laïciste combattant une religion fondamentaliste, ce qui crée un désordre sémantique total, il nous faut entamer une politique nouvelle par la création dans les pays européens de centres nationaux d'études islamiques créés par les États européen laïque. Et j'ai pris l'initiative avec le président Mitterrand d'en créer un en France. J'ai convaincu Mitterrand de la portée politique, intellectuelle et culturelle du projet. Il a donné instruction pour que nous fassions un projet en France de création de cet Institut national d'études islamiques en France. Des volontés politiques ont empêché la création contre la volonté du président. Vous voyez comment fonctionne, par conséquent, une stratégie où je pose très clairement la question de la nécessité en Europe, non pas seulement de donner les libertés, en vertu de la liberté religieuse, des lieux de culte aux musulmans, leur permettre de bâtir des mosquées pour faire ce qu'ils y font, et qui n'a rien à voir avec la réactivation d'une pensée islamique intellectuellement responsable. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose, c'est une autre activité. Eh bien, cet appel-là est resté jusqu'à présent lettre morte dans un pays comme la France, où il y a 4 millions de musulmans qui ont un besoin urgent de ce que j'appelle des espaces scientifiques d'expression de l'islam français et de l'islam européen. D'expression scientifique, pas d'expression culturelle, l'ibada. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Bien sûr, les fidèles croyants, ils ont le droit d'avoir leurs espaces, c'est tout à fait, c'est indiscutable. Mais ça n'est pas suffisant. Et le débat de société, le débat de civilisation avec les Européens, c'est dans ces espaces d'expression scientifique et intellectuelle de l'islam qu'il va se situer. Comme celui-ci, c'en est un, Dieu merci, c'est pour ça que j'en suis heureux, qu'il y en ait des espaces comme celui-ci. J'ai eu une autre expérience en Hollande, parce qu'il faut parler de l'Europe, et je dois témoigner d'une ouverture plus grande de la démocratie hollandaise, plus grande que celle de la démocratie française intégratrice, selon la conception républicaine de l'intégration. Parce qu'en Hollande, évidemment c'est modeste, on a créé une chaire publique à l'université d'Amsterdam que j'ai occupée personnellement pendant 2 ans. Mais cette chaire publique, évidemment, n'a pas les conditions nécessaires pour fonctionner correctement. J'avais très peu d'auditeurs musulmans. Parce que les auditeurs musulmans sont enfermés dans une conception défensive de l'islam dans les sociétés européennes, pour défendre un islam théologiquement fermé, théologiquement ignorant de ce qu'est la théologie musulmane elle-même. Bon, il ne faut pas désespérer, c'est justement là qu'il faut travailler, pour ouvrir ces milieux. Et j'ai réussi à créer une certaine ouverture, effectivement, mais il faut du travail. Et ce n'est pas un seul, une hirondelle, qui peut faire le printemps. Il faut une politique, au plus haut niveau, au niveau de la Commission européenne et au niveau des États européens, pour percevoir l'urgence et la nécessité de mettre en place ces contre-feux idéologiques, si je puis dire, plutôt des contre-feux scientifiques, face à des feux idéologiques, voilà comment il faudrait dire les choses, qui sont en train de fonctionner. Mais cette perception, encore une fois, des enjeux culturels actuels et des enjeux, je dirais, philosophiques actuels, des débats ouverts par des demandes formulées de façon maladroite par les musulmans en Europe. Maladroite parce que, justement, il n'y a pas suffisamment d'animateurs intellectuels, d'animateurs culturels au sein de l'immigration. En revanche, il y a des animateurs idéologiques au sein de l'immigration en Europe. Voilà encore un aspect du problème qui n'est absolument pas géré, ni par un côté, ni par l'autre. Et voilà pourquoi il faut poser la responsabilité aussi des États de part et d'autre. Et vous voyez que cette approche critique est absolument le contraire du discours de victimisation, du discours qui amplifie des questions de racisme et des questions d'injustice et des questions de ceci, etc. Ça existe. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Il y a des gens qui en souffrent. Il y a des crimes qui se commettent. Ça existe. Il ne faut pas l'ignorer. Mais si nous voulons justement sortir de ces péripéties malheureuses, il faut aussi penser à des réponses radicales, à des solutions radicales qui ne peuvent advenir que si, en Europe, les sociétés civiles change elle-même d'attitude vis-à-vis de la question de l'immigration. Mais en tournant rond, pour que les sociétés civiles puissent changer d'attitude dans leur perception négative de l'immigration, il faudrait que la politique des États, en particulier la politique d'éducation des États, soit fondamentalement révisée pour permettre à tous les élèves d'Espagne, dès l'école primaire, tous les élèves d'Allemagne, tous les élèves de Belgique, tous les élèves de l'Union européenne, qui est un espace politique commun, d'entendre à l'école un discours historique ouvert sur l'ensemble des acteurs historiques, tous les acteurs historiques, qui sont des agents évidemment d'hégémonie, mais qui sont aussi des agents culturels et des agents intellectuels. Mais il faut qu'on en entende parler en tant qu'acteur, et non pas en tant qu'obstacle à l'émergence et à l'expansion de l'hégémonie européenne dans la Méditerranée depuis le XVIIIe siècle. Vous voyez comment on vous présente l'histoire des Ottomans face à l'Europe. Comment on vous dit ? C'est des pirates qui viennent nous empêcher de nous répandre et de répandre à la civilisation des Lumières depuis le XVIIIe siècle. C'est comme ça quoi, que je l'ai appris et que sans doute on continue à l'enseigner aux petits élèves encore aujourd'hui. Au lieu d'ouvrir les théologies qui conditionnent encore à notre insu, qui conditionnent à notre insu notre interprétation du phénomène religieux aujourd'hui. Parce que l'histoire des théologies qui continuent d'agir de la manière violente est à l'origine du maintien de la violence dans nos sociétés actuelles. Cette violence politique est inséparable de la violence religieuse. Et la violence politique existe même dans les cultures les plus laïcisées. Nous la voyons en marche et nous la voyons effectivement agir, cette violence politique. Et voilà pourquoi, au lieu de parler de racisme, etc., comme je l'ai dit à propos de l'immigration, une des recherches et un des enseignements qui devraient intervenir dans nos écoles et dans nos universités, c'est justement d'enseigner ce que les anthropologues aujourd'hui nous enseignent sur l'anthropologie politique, sur l'anthropologie religieuse, pour cesser de percevoir l'islam comme la religion de l'épée, la religion de la violence, et regarder la violence comme une dimension anthropologique des sociétés, de toutes les sociétés humaines. Il n'existe pas une société humaine. De l'unité sociale la plus élémentaire comme le clan ou la famille patriarcale, jusqu'à la société la plus moderne et la plus sophistiquée et la plus large, il n'existe pas une seule société qui ne soit produite par des rapports de violence, soit de violence ouverte, physique, qui tue, qui détruit ouvertement, soit par une violence structurelle. Le droit, par exemple, sur lequel nous vivons, il fige des rapports de force entre les membres d'une même société. Et il crée une situation socio-politique basée sur une violence structurelle. Voilà pourquoi, après un certain temps, il y a toujours des éruptions, il y a toujours des violences physiques qui viennent casser un ordre juridique qui a duré trop longtemps. Voilà pourquoi la question du droit, et en particulier du droit international, qui maintient aujourd'hui une violence structurelle, non seulement à l'intérieur des unités nationales, mais dans le rapport des forces internationaux, penser radicalement la question du droit. et ne pas laisser le G7, les groupes des 7, penser pour le reste du monde, de même que l'Angleterre et la France, pendant tout le 19e siècle, ont tracé les frontières dans le monde entier, dont nous avons hérité, et qui nous donnent les Hutus et les Tutsis. Et qui nous donnent un tas de situations politiquement ingérables, parce qu'on n'a rien fait pour les modifier, et parce qu'on n'a rien changé culturellement pour percevoir le problème autrement. Et la seule chose qu'on fait, c'est de créer des expéditions humanitaires. Voilà comment les choses fonctionnent, ultimement, et je crois que j'ai suffisamment montré combien il est absolument urgent de travailler ensemble à la création d'un cadre philosophique nouveau. Nouveau. Ce n'est ni Aristote, ni Platon, ni Kant, ni Hegel, ni Marx, ni Farabi, ni Ibn Rushd, ni aucun de ces penseurs auxquels nous devons beaucoup, bien sûr. C'est une autre philosophie, avec d'autres outils conceptuels, en particulier vis-à-vis du phénomène de la culture et du phénomène du religieux. Je n'ai pas eu le temps de développer notre rapport d'ignorant au fait religieux aujourd'hui. La raison des Lumières nous a rendus incapables intellectuellement de penser correctement le religieux. Et les théologies héritées et encore enseignées dans les facultés de théologie, y compris au sein du christianisme, ne nous habilitent pas non plus à penser le religieux autrement, car il a besoin d'être pensé autrement. Et puisque je parle de religieux, je terminerai par là. Les religions demeurent importantes. Elles jouent, comme nous le voyons, à nouveau un rôle historique, de plus en plus voyant, au point qu'il fait peur, aux Européens en particulier. Ultimement, les religions se sont occupées de quoi? De dire aux hommes, aux êtres humains, le sens de leur existence. Pourquoi vivre? En vue de quoi vivre? Comment donner un sens à l'existence? La question du sens est au cœur des religions. Mais la question du sens est difficile à gérer. Qui va gérer la question du sens? Les discours de la révélation, les écritures saintes, etc., ne parlent pas d'elles-mêmes. Il faut les faire parler. Ce sont des hommes qui les ont fait parler et qui continuent de les faire parler. La question du sens telle que les religions l'ont mise en place pendant des siècles est une question ouverte. Elle n'est pas fermée, sous prétexte que nous avons le livre saint là qui nous dit tout. Qu'ont fait les Européens? Ils ont dit, on n'a plus besoin de référer à ces bouquins. On les laisse pour ceux qui veulent encore les utiliser, mais nous, nous allons suivre une marche altière qui est celle de la raison conquérante et autonome. Et voilà effectivement une alternative historique, non seulement à la gestion politique des sociétés, mais une alternative historique à la question du sens. Est-ce que philosophiquement parlant, la substitution d'un État en quelque sorte responsable du sens à une Église interprète du sens révélé, est-ce que cette substitution résout la question du sens pour nous? Je sens que ce langage que je tiens est déjà trop abstrait. Pourquoi? C'est important. Il est abstrait, je le sens. J'ai peine à continuer. Par parce que la philosophie a disparu elle-même de notre champ intellectuel en Europe. Il y a une étape nouvelle que nous sommes en train de vivre, qui est l'étape de l'ingénieur, qui est l'étape des sciences exactes, qui est l'étape de l'informatique. Et l'enseignement de la philosophie, j'en suis témoin à la Sorbonne, mais aussi dans d'autres universités européennes, s'est rétréci de plus en plus. La France et l'Italie, je crois, sont les seuls pays qui continuent de donner un enseignement de philosophie dans les lycées et collèges, c'est-à-dire au niveau de l'enseignement secondaire. Je ne sais pas si vous le faites ici. Vous le faites. Mmh. Alors j'ajoute l'Espagne. Je m'excuse de l'avoir ignoré. Mais ailleurs, l'enseignement de la philosophie, c'est dans le département de philosophie pour quelques étudiants qui s'y intéressent à l'université. Or, je maintiens que la question du cadre philosophique de la réflexion sur les problèmes qui nous assaillent aujourd'hui et les problèmes de culture sont des problèmes de sens. D'abord des problèmes de sens. Toutes les cultures formulent à leur façon un sens de l'existence. Et il faut porter attention à ce que disent les cultures sur le sens. Et voilà pourquoi je ne suis pas satisfait lorsque j'entends qu'il suffit d'enseigner la langue arabe aux fils d'immigrés pour qu'ils deviennent un peu à l'aise dans les sociétés européennes, il suffit de leur enseigner quelques bribes de la civilisation islamique. Non, ça ne suffit pas. Il faut rétablir à l'intérieur de la pensée islamique la dimension philosophique qui a été éliminée au sein de l'islam depuis la mort d'Averroès ici. Oui, depuis la mort d'Averroès, depuis 1198, le XIIIe siècle, la philosophie et la réflexion philosophique, l'espace intellectuel spécifique de la philosophie a été éliminé du champ intellectuel de la pensée islamique. C'est terrible. Et il est en train d'être éliminé dans l'espace européen lui-même, si on y prend garde. Or, je pense qu'il n'y aura pas de philosophie politique nouvelle pour affronter ces problèmes-là s'il n'y a pas un cadre philosophique de réflexion et d'analyse critique des enjeux de sens, des cultures en présence dans une société multiculturelle, et donc il n'y aura pas, à mon avis, de réponse adéquate aux problèmes que nous sommes en train de poser et sur lesquels nous nous penchons. Je ne termine pas par cette proposition plutôt pessimiste, parce que tout ce que j'ai dit, je pense, ouvre des possibilités de travail, ouvre des possibilités d'échange, ouvre des avenues à un travail positif et non pas l'avenue qu'on nous propose et qu'on renforce, qui est le clash des cultures, le clash des civilisations, c'est-à-dire la violence. Merci pour votre attention.
Muchas gracias, profesor Arcún, por esta interesante y siempre sugerente conferencia en la que han sido planteados interesantes elementos que estoy convencido van a dar lugar a un debate fructífero. Me gustaría simplemente promoverlo o iniciarlo arrancando de esa última reflexión que me parece bastante sugerente, basada en que el diálogo de culturas o multiculturalismo no es posible sin la creación de una filosofía política, sin una nueva filosofía política. Creo que las reflexiones y los comentarios que ha realizado durante su exposición se caracterizan por intentar realizar un análisis crítico en un discurso que la mayor parte de las veces es repetitivo y reiterativo. Gracias por ello. Me gustaría pasar ahora la palabra a la sala para iniciar un turno de debate no demasiado largo, disponemos de una media hora solamente, desgraciadamente, pero esta primera conferencia inaugural irá seguida de una serie de mesas redondas en el que todos estos temas que han sido planteados y esbozados en esta conferencia inaugural podrán ser retomados con posterioridad. Profesor Hatim.
Yeah, can I make my point in English?
Of course.
Yeah.
I prefer English.
Yes. You see, I have a problem denouncing at one and the same time both the discourse of civilization and the discourse of victimization. I have a conceptual problem with that. First of all, I'm sure you didn't mean by victimization the feeling amongst ourselves that we are hard done by and we have always been wronged, wrongfully, etc. You didn't mean that. So therefore, in my experience, the discourse of victimization as a label has been systematically used by the discourse of civilization to gag any attempt at standing up and trying to be counted. Every time there is something which rocks the boat, the discourse of civilization comes to you and say, come on, stop whinging, stop complaining, let's be orderly, let's have a conference, let's have a committee meeting, let's talk it over. And therefore it's become a tactic to really make us, give us a sleeping pill, sugarcoat the pill, stay there. So every time in my department I want to speak about racism, they say, oh, come on, stop that discourse of victimization. And the Party of God by Ayatollah Khomeini, typically, was labeled in the West the party of the victimized on earth. So victimized has had a very negative connotation, and it is a tool used by the so-called discourse of civilization. So my point is, we really cannot denounce both, because the job of denouncing the discourse of victimization is already done very, very well by the discourse of civilization.
Yes. So, I answer to that, that myself, what I want to mean by rejecting, eliminating, at least for myself, this discourse of victimization is to conquer a space inside Islamic thought for doing the work which is still awaiting to be done. The work of criticism, of historical criticism of Islamic thought, of anthropological criticism of Islamic thought. The space and the freedom in this discourse, call it political or victimization or whatever, I want a place for Muslim intellectuals to open problems and to think about problems which are still unthought of, which are made by our history unthinkable, as I say, impossible to think about it, not because we do not have intellectual resources, we do have, but it is politically forbidden to do it. I want this space. That's why I cannot have, I have no time myself to use this discourse, and I'm not discussing with what they are saying to make me to silence my voice. No, this is another debate. What you told me, what I mean by this is only the conquest of a space of freedom inside Muslim societies, in the history of Islamic thought, to open up issues which have been closed up by political will in the history of Islam. For example, the history of Mu'tazili thinking has been closed up since 11th century by the Caliph al-Qadir. And this thinking of Mu'tazili inside Islamic thought is essential. If we had it today, we would speak otherwise than we do about the status, the cognitive status of the Quran itself. Look what we lost. And that's why I say, stop. I say to myself, to Muslims, I'm not saying stop it to listen to Westerners. No, this is another problem. So it is extremely important to be aware of the necessity to have for ourselves this space of freedom that we do not have yet.
Professor Ferragiani.
Micro.
D'accord. J'ai dit je parle en français si ça vous gêne pas. Alors j'ai quelques réflexions. Premièrement à propos de la philosophie des Lumières. Moi je suis un ancien étudiant du professeur Harkoun. Je l'ai entendu un peu critiquer la philosophie des Lumières pour son attitude par rapport à la pensée du Moyen Âge qu'elle jette en bloc. Et je crois qu'il faut avoir la même attitude de discernement par rapport à la philosophie de Lumière. Il ne faut pas jeter tout en bloc non plus. Quand Voltaire dit « Je vais de vous délivrer de la bête », est-ce que c'est de la religion en entier ou c'est de la religion vécue à laquelle qu'il affrontait sous le mode de la religion vraie d'Ibn al-Haqq que vous avez? Précisément, par rapport à celle-ci, il faut nous délivrer de cette bête-là. Et par rapport donc aux Lumières, c'est vrai, il y a aujourd'hui une situation nouvelle. On n'est plus dans la situation de la confrontation avec la religion vraie. On est dans la situation de confrontation avec la quête de sens de laquelle participent les religions, toutes les religions. Je dis de laquelle participent, mais la quête de sens n'est pas que religieuse. La quête de sens, la religion, c'est une forme de quête de sens, mais il y a d'autres formes de quête de sens. Je crois que c'est très important. Et s'il faudrait dénoncer aujourd'hui une forme de totalitarisme qui est venue remplacer une autre forme de totalitarisme, celui de la religion vraie, je crois que c'est là aussi, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, à savoir, aujourd'hui on va plus loin. On refuse toute idiocratie, y compris celle de l'État laïque. Hein? Mais on maintient la laïcité. Et là, j'ai eu peur à un moment, et puis après vous avez rectifié le tir en distinguant laïcisme et laïcité. Effectivement, la laïcité, c'est ce que nous permet aujourd'hui de bord philosophique, religieux, différent, de pouvoir discuter ensemble. C'est ça, pour moi, la laïcité. Et ça, c'est fondamental. Et on ne peut pas oublier que les Lumières ont participé de cette marche vers la création de cet espace-là. C'est insuffisant. Il faut aller plus loin en rejetant toute forme d'idiocratie. Mais il ne faut pas oublier cela. Il a fallu cette confrontation avec la religion vraie, la théologie de la religion vraie, et les Lumières ont tordu trop le bâton dans l'autre sens, mais pouvait-il faire autrement, historiquement parlant? Est-ce qu'il était possible de faire autrement que tordre le bâton dans ce sens-là? Aujourd'hui, on en prend conscience, c'est très important, il faut aller plus loin. Alors, aussi, autre chose que je voudrais dire, c'est, vous avez dit que vous n'avez eu cet espace de parler de cette manière-là, de la religion, et qu'ici, à Tolède et en Hollande. Moi, je vous ai écouté, M. Harcoun, dans un autre colloque, à Besançon, sur l'enseignement de l'histoire des religions, et on vous a réservé la part du lion, si vous avez conclu ce colloque-là. Et c'était très important. Et je pense qu'avec ce colloque-là, on a accompli une importante avancée. On s'est rencontrés à plusieurs autres reprises en France, où vous avez pu tenir ce discours-là, et c'est très important. Je crois que les choses en France ne sont pas figées aussi. Ça évolue. Il y a un débat, il y a une évolution. Ce n'est pas encore suffisant. C'est le sens de mon intervention cet après-midi ou ce soir. Mais je crois que c'est très important. Il y a aujourd'hui la possibilité en France de tenir ce discours-là, de faire des propositions dans ce sens-là et d'œuvrer donc pour aller vers précisément un enseignement où la philosophie, et là vous avez raison, la philosophie reprenne ses droits si elle a eu ses droits auparavant. Moi, je crois qu'on n'a jamais eu, que la philosophie n'a jamais eu ses droits auparavant assez. Et il faut qu'il y ait plus d'enseignements de philosophie, pas seulement en terminale. Ça ne suffit pas en terminale. On peut introduire un enseignement philosophique beaucoup plus précoce. Et c'est en train de se faire dans certains pays où s'y attendait le moins. j'avais fait mon mémoire de maîtrise de philosophie sur l'enseignement de la philosophie en Tunisie. J'avais fait la proposition d'enseigner la philosophie les trois dernières années de la philosophie et pas seulement réserver l'enseignement de la philosophie au supérieur, à la seule filière, au seul département de philosophie. Et bien aujourd'hui en Tunisie, on a introduit l'enseignement de la philosophie dans les deux dernières années. Du lycée, et il y a un enseignement de philosophie dans l'école polytechnique, dans la faculté de théologie de la Zitouna, dans les écoles d'ingénieurs, dans une volonté politique. Et c'est ça qui est dangereux. Hein? Et avec une idéologisation, et c'est ça qui est dangereux. Mais c'est très important. Je crois que la philosophie est capable de nous délivrer, un véritable enseignement de la philosophie est capable de nous délivrer des tuteurs de l'humanité qui veulent précisément utiliser l'enseignement comme moyen de domestiquer. Vous avez signalé l'histoire de votre problème avec Salman Rushdie. J'étais témoin de cet épisode-là. Je crois que ce qui n'a pas été compris dans votre propos, c'est que vous êtes prononcé sur ce qu'il faut à long terme, mais vous n'êtes pas prononcé sur le fait lui-même de la condamnation de Salman Rushdie. Vous l'avez fait 3 ans après. Vous avez rectifié le tir ou clarifié les choses 3 ans après. Mais sur le coup, les gens ne vous ont pas compris parce que vous vous êtes prononcé sur le long terme, mais sur le court terme, l'immédiat, prendre position par rapport à la condamnation de Salman Rushdie, vous ne l'aviez pas fait. Du moins, dans ce qui est transparent, dans l'article, dans l'interview que vous a été accordée par Le Monde. Merci.
Bien, rapidement, il est évident que la France est un pays démocratique, on peut s'exprimer comme on veut, et que je me suis toujours exprimé en France à diverses occasions, sans qu'il y ait pour moi aucune conséquence. Je n'ai pas du tout voulu suggérer que la France interdit de parole ceux qui essayent de réfléchir sur la question de la laïcité. J'ai simplement rapporté un fait dans mes relations avec la classe politique. La classe politique française regarde avec condescendance tout ce qui relève de l'islam et des arabes et n'a pas le courage politique. Jusqu'à présent, c'est mon expérience avec elle. La classe politique française n'a pas le courage politique d'affirmer une politique claire, en particulier sur le plan de la culture. Et je ne suis pas de ceux qui réclament, comme je vous l'ai dit, l'enseignement de l'arabe, le culte, etc. Le problème pour moi n'est pas là. C'est, comme je vous l'ai dit, un problème de civilisation et de culture que je place au plus haut niveau. Et par ma démarche, je remets en cause la philosophie sous-jacente à la politique républicaine, à la conception politique de la République. Et j'ai des collègues français, par exemple l'anthropologue à Aix-en-Provence, comment s'appelle-t-il, qui fait de l'anthropologie juridique, a tenu exactement les mêmes propos à l'égard de la conception rigide de la République laïciste dans la classe politique française. Et aussi vis-à-vis de la culture dominante chez le français moyen. Par exemple, je ne sais pas si on a le temps, il m'est arrivé de faire des conférences dans de nombreuses villes de France. Et j'aime bien citer devant un public français un épisode qui a eu lieu le 12 décembre 1989 en France. Le 12 décembre 1989, vous savez que 89 a été la grande célébration du bicentenaire de la Révolution française. Le dernier acte officiel de cette célébration a été la décision du président Mitterrand de faire entrer l'abbé Grégoire au Panthéon. Et vous savez ce que ça signifie pour la République, entrer au Panthéon. Voilà une religion, un culte laïque. Bien. L'abbé Grégoire, c'était un membre de l'Église. Mitterrand, dans sa symbolique politique, a choisi l'abbé Grégoire comme médiateur entre la solution chrétienne et la solution révolutionnaire laïque. Par parce que l'abbé Grégoire avait signé la constitution civile du clergé. Donc, dans la symbolique politique de Mitterrand, il voulait réconcilier les deux Frances en offrant aux Français ce symbole d'un homme d'église catholique en pleine révolution qui a milité pour l'émancipation des juifs selon les idées de la révolution et qui a signé dans cette ligne-là la constitution civile du clergé. Eh bien, le cardinal Lustiger a refusé de participer à cette manifestation qui pourtant concernait, encore une fois, l'abbé Grégoire, un homme de l'Église. Il y a là des problèmes formidables. Eh bien, les Français restent bouche bée lorsque je leur dis... D'abord, quand est-ce que ça s'est passé? Ça s'est vraiment passé? C'est un événement qui est passé complètement au-dessus de leur tête. Comme si ce n'était pas leur propre histoire. Alors que cet exemple, mais il contient un résumé admirable de toutes les luttes menées en Europe et ailleurs, et en islam, au sujet justement du sens. Comment dire le sens aux sociétés? C'est ça qui s'affirme derrière cette symbolique richissime du Panthéon, de la République, de l'abbé Grégoire, des affrontements de la Grande Révolution, entre le sens délivré par la religion et le sens nouveau délivré par la raison des Lumières. Mais c'est admirable! Tout cela est passé au-dessus de la tête des Français. Et je vais demander aux Français de venir penser historiquement et en anthropologue la question du sens à l'intérieur des religions analphabètes. Connaissent pas. Parce qu'ils sont rendus analphabètes par un type d'enseignement qui a privé les citoyens français d'une culture à la fois philosophique, d'une culture en histoire des religions, d'une culture en histoire des symboliques politiques et des symboliques culturelles dans les sociétés sans lesquelles il n'y a pas de sens dans les sociétés, tout cela a été éliminé. Pas totalement, je parle un peu dans le feu de l'action, mais en tout cas personnellement, lorsque je parle à un public français, ou à un public allemand, pas, ou à un public espagnol, hein, ne croyez pas que les Espagnols sont complètement à l'abri de cette histoire-là, pas du tout. Eh bien, comme tout à l'heure, je sens le public se retirer dès que je deviens un peu abstrait, un peu trop philosophe, un peu trop anthropologue, etc. Et se retirer, le public n'est plus là. Parce que le public n'a pas reçu ça à l'école. Tout simplement. Et donc, il y a là des questions, effectivement, qu'il faut essayer de piocher. Et il n'est plus temps de défendre la laïcité. La laïcité est là, nous la défendons, nous savons ce qu'elle vaut. Elle n'a plus besoin, à mon avis, en tout cas en Europe, d'être défendue. Ce qui a besoin d'être défendu, c'est d'ouvrir tous les registres sur lesquels l'humanité, les hommes, se sont exprimés pour dire le sens. Et aujourd'hui, il est extrêmement dire l'éthique aujourd'hui. J'ai l'honneur d'être membre du Comité national d'éthique pour les sciences de la vie en France. Je siège avec des personnalités admirables, d'ouverture, de volonté de dire les choses pour la société, toutes les inquiétudes de la société, etc. Il ne nous est pas possible de dire l'éthique à la société. Aucun membre du comité ne s'aventurerait à prononcer une proposition éthique. Parce qu'immédiatement, elle est livrée à toutes les critiques venant de toutes parts. Et c'est ça notre situation d'aujourd'hui, et c'est ça la situation dans laquelle nous avons à gérer le sens aujourd'hui. Mais gérer le sens, c'est écouter toutes les formulations émanant de tous les acteurs sociaux, y compris les musulmans fondamentalistes. Y compris des musulmans fondamentalistes. Ils font partie de notre contemporanéité. Et d'une manière de dire le sens qui ne leur est pas particulière, puisqu'elle a dominé pendant des siècles. Et quand j'ai soulevé trop rapidement la question de la religion vraie, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hegel lui-même, Hegel, parle. Il emploie la même expression, la religion vraie. Hegel. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a des choses qui ne sont pas ouvertes. Elles ont été fermées par l'État laïque, qui plus est. Et moi, chaque fois que je me suis battu pour la laïcité, c'est pour cette laïcité telle que je l'ai définie. Et non pas par une laïcité qui recherche des compromis juridiques avec l'Église. C'est pas ça la solution, surtout aujourd'hui.
Bien, rogaría a los intervinientes que fueran más breves en sus intervenciones para dar tiempo a que haya un mayor número de ellas, ya que estamos un poco limitados por el tiempo.
الأستاذ محمد تهانينا على هذه المحاضرة القيمة حقيقة وفيها آراء كثيرة وربما لقصر الوقت لم نستفد الاستفادة الكاملة
دينية أصلا وإنما كان دافع أو الظاهر الديني ولكن لأسباب اقتصادية ومن طبيعي يطلع على الحروب الصليبية وخاصة الحملة الأولى والثانية والثالثة لم تكن لأسباب دينية وإنما كانت لأسباب اقتصادية أما الحملة الخامسة التي حدثت على البحر الأحمر فبالتأكيد اقتصادية 100% رغم أن المؤرخين المسلمين اعتقدوا أن الأوروبيين سيذهبون إلى مكة والمدينة النقطة الأخرى لقد ركزت في بحثك
والهجرة على فرنسا وكأنما فرنسا هي أوروبا بكاملها لنتحدث الآن عن الدول غير المستعمرة ولدينا فيها مهاجرون كثيرون مثل الدول الاسكندنافية مثلا أو سويسرا لدينا من العراقيين أكثر من 50,000 عراقي في الدول الاسكندنافية وهؤلاء يستفيدون استفادة تامة من اللغة ومن المعيشة بالمقارنة لو كانوا قد بقوا في العراق أصلا أما بالنسبة إلى بريطانيا فالوضع مختلف تماما لدينا حوالي 250,000 عراقي وهؤلاء لهم حقوق متساوية تقريبا مع أفراد طبيعي هناك شكاوى عديدة لكن يبدو لي أن المستقبل هو بيد أطفالنا الذين يعيشون في الدول الأوروبية إنهم يتعلمون اللغة وهؤلاء سيقومون بدور العلمنة نحن لا نطلب من الكبار أن يتخلوا عن غرائزهم الدينية إذا صح التعبير ليتعلموا العلمنة لذلك أرى أن الاستعمار الفرنسي خاصة في شمال أفريقيا حاول أن يقضي على اللغة أو على الدين أو على العادات المحلية بالنسبة إلى الاستعمار الإيطالي أو الإسباني أو الإنجليزي فذلك مختلف وهذا مع الأسف لم أسمعه منك يعني التفرقة بين استعمار واستعمار وإن كانت الغايات واحدة إلا أن الأساليب مختلفة تماما وشكرا جزيلا
نعم لا شك أن الأساليب مختلفة ولكن كما ذكرت المقصود من الاستعمار في القرن التاسع عشر هو أن ينشر ما كان يعتقد فيه أنه مدنية عالمية بشرية موجهة للبشر كما تعتقد الأديان أيضا أن كلام الله موجه للبشر فلذلك قلت إن العقل الذي كان يسود الفكر السياسي وكان يسود أيضا العلوم الاجتماعية كما كانت تمارس في القرن التاسع عشر هذا العقل كان يحل في عقائده اليقينية أو في يقينه الفكري كان يحل محل العقل الديني الذي أيضا كان يعتمد على هذا اليقين هذا ما أشرت إليه وطبعا لا أجهل أن هناك أساليب مختلفة في تسييس المجتمعات المستعمرة في القرن التاسع عشر وحتى اليوم نجد أساليب مختلفة في معاملة المهاجرين في إنجلترا وفي السويد وفي النرويج وفي جميع المجتمعات الأوروبية هناك أساليب تختلف ومن التاسع للوقت لأشير إلى هذه الأساليب المختلفة ولكن أيضا ومع المهاجرين ومواقف المهاجرين أمام هذه الدول المختلفة في أسلوبها نجد أن المهاجرين دائما يقدمون أنفسهم كمظلومين كمجهولين كمهمشين ودائما يلحون على العنصرية التي يواجهونها من طرف هؤلاء هذا الموقف أيضا يرجع إلى موقف فكري عام أود أن يزول
حتى نواجه مشاكل فكرية وثقافية تتصل بثقافاتنا الأصلية، وحتى نساهم في المناقشات الرفيعة المستوى هنا في أوروبا كمشكلة معضلة العلمانية كما يفهمونها هنا وكما لم نفهمها بعد، لأننا لم نواجه في تاريخنا ما واجهه الأوروبيين فيما يتعلق بهذه المعضلة التي كما أشرت معضلة فلسفية وليست بمعضلة شرعية أو سياسية فقط. إذن ألححت على أننا لم نهيئ التهيئة المطلوبة لنمارس مشاكلنا ولنمارس وضعنا أمام الأوروبيين مع اختلافهم، اختلاف ثقافاتهم واختلاف أساليبهم كما أشرت. أما الحملتان التي أشرت إليهما ما فهمت أي حملة قصدت؟ حملة الصليبية؟ نعم الصليبية. والثانية
حينما ذهبوا إلى المجر حتى
نعم هذا فيه كلام طويل عند المؤرخين، لن أتدخل في هذا المشكل لأنه فيه كلام طويل والمؤرخون أيضا يقولون أشياء عديدة والموضوع لم يزل شائك.
ألا ترى أن الإسلام يحمل بذرة تراجيدية في داخله؟
ما سمعت.
ألا ترى أن الإسلام يحمل بذرة تراجيدية في داخله لأنه دين قام على العنف، دين قام على حد السيف، وسيظل يحمل هذه الفكرة حتى بعد أن تخلى المفكرون المحدثون الإسلاميون عن فكرة التبشير؟ ما يسمى بالأصوليين الإسلاميين هم يأخذون ما قام عليه المفسرون، ما قال به المفسرون القدامى مثل الشافعي أنه دين الحق كما تقول أنت، أنه دين تصادمي وتبشيري، أنه لا تقبل شهادة حتى الآن في بعض الدول الإسلامية لغير المسلم على المسلم، أن ما غير المسلم هو ذمي، هو مواطن من الدرجة الثانية، أنه أيضا دين يحمل في ذاته فكرة التصادم مع الآخر. فهل تعتقد أنه يمكن حل هذا التصادم بشكل حضاري بإقامة ما تطلق عليه مؤسسات لدراسة الفكر الديني، أم أنه سيظل دين تصادمي حتى النهاية؟
نعم، جميع الصفات التي ذكرتها ويوصف بها الإسلام صادرة من الخطاب الإسلامي نفسه، والمستشرقون والصحافيون والأوروبيون ينقلون عن هذا الخطاب وينشرون هذا الخطاب ويؤيدونه بتقديمهم في لغاتهم حتى ترتسخ هذه الصفات في أذهان الجماعة التي تقرأ وتسمع ما يقال وما يكتب. ولكن كل هذه الصفات آتية من الخطاب الإسلامي نفسه. لماذا؟ لأن المسلمين أنفسهم كما قلت لم يعتنوا بعد بكتابة تاريخ موضوعي مبني على مناهج التاريخ الحديث. وإذا أردنا مثلا أن نستوضح ماذا حدث في الفتنة الكبرى، وهي مرحلة تاريخية شائكة مركبة عويصة علينا، لأن المؤرخين المسلمين أفرغوا تصوراتهم لهذه الفترة ولما صار أثناء الفتنة الكبرى، وأفرغوا أسقطوا تصوراتهم إذا كانوا سنيين أو شيعيين على هذا الحدث. وإلى يومنا هذا ليست لدينا مصادر حديثة مؤلفة مكتوبة كما يقتضيه المنهاج العصري لكتابة التاريخ. واخترت هذا المثل لأن كتابا صدر أخيرا في الشهر الماضي للأستاذ مارلونج المعروف بجامعة أكسفورد The Succession to Muhammad، وهو يعالج هذا الموضوع نفسه. وننتظر أن يأتينا مارلونج بكتاب يحاول أن يوضح فيه هذه المشكلة الأساسية لفهم ما حدث في جميع التاريخ السياسي والتاريخ الفكري والتاريخ الثقافي للإسلام. هذا هو الوضع، الوضع هو الجهل، أننا نجهل التاريخ ماذا حدث. وعندما نتكلم كمسلمين